Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Des millions de doses au congélateur, le vaccin Johnson & Johnson qui devait entrer en scène en France la semaine prochaine est suspendu, même suspicion que pour AstraZeneca et même type de vaccin. Dans les Vosges, la petite fille de 8 ans enlevée par 3 inconnus hier, toujours activement recherchée, sa mère suspectée, la justice lui avait retiré sa garde. PSA choisit le site de Douvrin, près de Lens, pour la fabrication de son nouveau moteur hybride. Les salariés soulagés, le site préservé. Dans le journal, la réforme de la justice version Dupont-Moretti, avec certaines cours d'assises sans jurés populaires, le départ de Jean-Luc Mélenchon en Amérique du Sud et son absence au sommet de la gauche, le rapport de l'ONU qui dit qu'une femme sur deux dans 57 pays est privée du droit de disposer de son corps, et le PSG célébré comme un grand d'Europe par toute la presse du continent. Invité l'Europe Midi, l'historien Patrick Weil qui, face aux querelles incessantes sur la laïcité, veut revenir aux sources de la loi de 1905. Il publie « De la laïcité en France » chez Grasset.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une pause, une de plus pour l'un des vaccins anti-Covid. Le Johnson & Johnson est suspendu aux États-Unis et en Afrique du Sud à cause, là aussi, de l'apparition rare de graves caillots sanguins. Pas de chance pour l'Europe et la France qui s'apprêtaient à démarrer leur campagne avec ce vaccin à une seule dose. Anne Le Gall, que vont devenir les 200 000 doses qui viennent de nous être livrées ?
Alors la campagne ne devait démarrer que le 22 avril et ces doses vont rester en attente, en tout cas le temps qu'on en sache plus, parce que l'Agence européenne du médicament enquête aussi depuis la fin de la semaine dernière sur ces thromboses qui pourraient être provoquées par le vaccin Janssen chez des femmes de moins de 50 ans. Alors on parle de phénomènes rares, moins d'un cas pour un million d'injections et pas de lien de cause à effet pour l'instant. Mais ce qui pourrait arriver, c'est que le vaccin Janssen, tout comme celui d'AstraZeneca, soit finalement réservé aux plus de 50 ou 55 ans, ce qui dans l'immédiat ne changera pas grand-chose pour la campagne française, ce sont des personnes que l'on vaccine déjà actuellement. Et en avril et mai, le vaccin Janssen représentera moins de 6% des stocks dans les frigos.
Et comme AstraZeneca, le Janssen ou Johnson & Johnson est un vaccin à adénovirus.
Voilà, ça veut dire que ce qui sert à transporter le matériel génétique dans l'organisme, donc les petits bouts de SARS-CoV-2 pour déclencher la réponse immunitaire, c'est un virus effectivement rendu inoffensif, ce n'est pas de l'ARN messager, la technique est efficace, mais peut-être que ces adénovirus déclenchent des réactions immunitaires inattendues chez certaines personnes, dans des cas exceptionnels. C'est ce que les experts cherchent à comprendre en ce moment, m'a expliqué hier Marie-Paul Kieny, présidente du comité vaccin Covid en France. Les enquêtes des autorités sanitaires américaines et européennes servent donc à comprendre dans quelles conditions de sécurité optimales on peut injecter ces vaccins. Et l'âge pourrait être un critère.
Anne Le Gall, dans la même catégorie de vaccins à adénovirus, on trouve aussi le Spoutnik russe, dont le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a annoncé ce matin avoir passé une précommande de 500 000 doses sous réserve de l'autorisation européenne. Dans les Vosges, une petite fille de 8 ans, toujours activement recherchée, Mia, a été enlevée par 3 inconnus alors qu'elle était chez sa grand-mère, puisque la mère de la fillette s'est vue retirer sa garde par le juge des enfants. Arthur Mbaché, devant vous, le procureur d'Épinal vient de donner des précisions.
Alors, première information, la petite fille n'a toujours pas été retrouvée. Le procureur a détaillé la manière dont s'est passé l'enlèvement. Enlèvement sans violence, enlèvement soigneusement préparé. 3 hommes qui se font passer pour du personnel de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, avec un scénario bien ficelé, des faux papiers en tête du ministère de la Justice. De quoi convaincre, en tout cas, la grand-mère de l'enfant de la laisser partir, la petite avec ces hommes pour un soi-disant rendez-vous avec les services sociaux. Tout ça, sachant qu'il y a un contrat. Contexte familial très particulier détaillé par le procureur d'Épinal, Nicolas Heitz.
Fin décembre 2020, le parquet d'Épinal était destinataire d'un signalement indiquant notamment que l'enfant était confronté à la violence de sa mère à l'endroit de son conjoint. Elle était aussi confrontée à ses propos suicidaires et à son refus de sa scolarisation malgré le rejet d'une demande d'instruction à domicile. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle allait vider son appartement et vendre ses meubles avec pour projet de partir en camping-car avec sa fille dans le but de passer, je la cite, « en dessous des radars de la société ».
Le procureur a remontré les photos de la fillette disparue et de sa mère. Il a expliqué que l'alerte enlèvement a été formellement levée hier soir après 3 heures de diffusion parce que l'objectif, dit-il, de la médiatisation avait été atteint.
Arthur Mbaché en direct d'Épinal pour Europe 1. Soulagement pour les 1400 salariés de la française de mécanique à Douvrin, près de Lens. Le constructeur PSA, rebaptisé Stellantis, annonce que son nouveau moteur hybride sera bien construit dans le Pas-de-Calais et non pas en Hongrie, comme le redoutaient les syndicats. Annonce qui donne quelques perspectives d'avenir au site, Lionel Gougelot.
Oui, effectivement. En tout cas, cette annonce éloigne le spectre d'une fermeture pure et simple du site dont la production du moteur diesel devait s'arrêter l'an prochain. Alors forcément, ce nouveau projet rassure Laurent Cambier, secrétaire du CSE.
On va avoir une nouvelle génération de moteurs qui vont passer en hybride et ça sera fabriqué sur notre site. Ça va faire à peu près 300 à 400 emplois qu'on aura toujours en 2023-2024 et c'est une très bonne nouvelle pour nous. On respire quoi, hein.
Mais le fait est que la production de ce nouveau moteur ne garantira pas l'avenir de l'ensemble des 1400 salariés de la française de mécanique. Alors dans les 3 ou 4 ans à venir, il devrait être transféré vers la future usine géante de batterie prévue ici pour 2023 avec 2000 emplois envisagés dans les prochaines années. Fabrice Massiolek, responsable force ouvrière pour l'intersyndicale.
On a les compétences sur notre site. Il y avait une fonderie, les salariés ont su se reconvertir. Les salariés se sont toujours adaptés, n'importe quelle formation l'ont fait. Donc j'ai aucun doute là-dessus sur les salariés de la force de mécanique. Mais enfin, c'est comme dans tous les métiers. Si on ne s'adapte pas, on n'évolue pas.
Mutation industrielle pour une transition énergétique et surtout une page d'histoire qui va se tourner bientôt pour une usine qui, il y a encore quelques années, assurait 5% de la production mondiale de moteurs pour véhicules légers.
Lionel Gougelot à Douvrin.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Éric Dupond-Moretti devrait laisser son nom à une réforme. C'était son vœu le plus cher en devenant ministre de la Justice. Le débat parlementaire est déjà prévu pour la mi-mai et le projet de loi vient d'être présenté ce matin au Conseil des ministres. Il vise à restaurer la confiance dans la justice. Il rend possible de filmer certains procès. Il encadre les enquêtes préliminaires et, c'est l'un des points les plus controversés, il généralise les cours criminelles. Ces tribunaux composés de 5 magistrats professionnels aptes à juger des crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion, et cela au détriment des cours d'assises avec jury populaire auquel l'avocat Dupond-Moretti se disait pourtant très attaché. Marion Dubreuil, quelle est la justification de ces cours d'assises sans jury?
Eh bien, la chancellerie s'appuie sur un argument massu, la question des délais. Entre 6 mois et 1 an et demi pour juger une affaire devant une cour criminelle, contre le double d'attente devant une cour d'assises. C'est beaucoup pour des victimes qui attendent justice, c'est long aussi pour des accusés, parfois en détention provisoire ou sous bracelet électronique. La cour criminelle est compétente pour juger la moitié des dossiers qui relèvent aujourd'hui des assises. Et pour l'écrasante majorité, ce sont des affaires de viol. L'objectif est donc de désengorger les assises pour juger plus vite tous les dossiers criminels, y compris lorsque les accusés encourent des peines de 30 ans de prison, voire la perpétuité, ce qui restera la compétence exclusive des cours d'assises, tout comme les procès en appel. Même si depuis que la cour criminelle est expérimentée, la chancellerie a également constaté que les demandes d'appel sont moins importantes pour des peines prononcées du même ordre que devant une cour d'assises, et le garde des Sceaux y voit un gage de satisfaction des justiciables.
Marion Dubreuil, la politique avec un sommet de la gauche prévu dans quelques jours, réunion organisée à grand-peine par Yannick Jadot et un Jean-Luc Mélenchon absent, le leader des Insoumis vient de partir en Amérique du Sud pour 15 jours avec une première escale hier en Équateur, escapade indécente selon plusieurs élus macronistes. Claudia Bertram, quel est le motif de voyage de Jean-Luc Mélenchon?
Eh bien, le leader de la France insoumise répond à l'invitation du gouvernement bolivien à l'occasion de la Journée de la Terre le 22 avril. Dans son entourage, on assure qu'il a multiplié les tests PCR avant de partir. Jean-Luc Mélenchon en a donc profité pour faire escale en Équateur et s'afficher avec le candidat de gauche battu à l'élection présidentielle. Hier, il a posté une photo sur Twitter avec lui disant « Il perd à 4 points d'écart, le candidat vert lui a refusé le soutien, la droite gagne ». Bien que les situations politiques françaises et équatoriennes soient difficilement comparable, le message en direction des écologistes français est à peine voilé. Alors que Jean-Luc Mélenchon ne participera pas au grand raout organisé par Yannick Jadot samedi matin, puisqu'il sera encore en Amérique du Sud, il se fera représenter. Côté écolo, on assure qu'au début, on ne savait pas qu'il partait. On n'a pas cherché à l'évincer, mais on n'allait pas attendre qu'il rentre non plus. Depuis le départ, Jean-Luc Mélenchon ne cache pas ses réticences à parler de candidature commune de la gauche pour 2022, d'autant qu'un sondage dimanche le place en tête à gauche avec 13 à 13,5% des voix au premier tour.
Claudia Bertram, constat effrayant de l'ONU sur les atteintes aux droits des femmes dans le monde. Dans 57 pays, près d'une femme sur deux est privée des libertés liées à son corps, relations sexuelles, contraception ou accès aux soins. Rémi Bossaron.
Oui, cela représente des centaines de millions de femmes et de filles, surtout en Afrique sud-saharienne. Deux exemples parmi les plus problématiques, le Mali et le Niger. Dans ces deux pays, une femme sur quatre n'a pas la maîtrise de sa contraception, deux femmes sur trois ne peuvent pas refuser d'avoir des relations sexuelles et trois femmes sur quatre ne peuvent pas décider elles-mêmes d'avoir recours à des soins de santé. Mais l'étude ne s'arrête pas au constat, elle s'intéresse aux causes au-delà des traditions patriarcales. Elle souligne le rôle joué par l'État, par la loi. Elle cible par exemple les pays comme l'Angola, le Cameroun ou les Philippines dans lesquels la loi permet à un violeur de se marier avec sa victime pour échapper à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, la moitié de ces pays ne dispose d'aucune loi ni de politique sur une éducation sexuelle complète. Une politique publique décidée majoritairement par des hommes, puisque, comme le souligne le rapport, les femmes qui ne contrôlent pas leur corps ne peuvent pas participer à la vie politique de leur pays.
C'est donc un rapport de l'ONU qui est accessible en ligne. Merci Rémi Bossaron. Football, le Bayern de Munich, après le Barça, deux des plus grands clubs d'Europe, effacé de la Ligue des Champions par une même équipe. Le Paris Saint-Germain est désormais en demi-finale. La presse européenne célèbre ce matin la naissance ou le renouveau d'une équipe majeure, Julien Froment.
Exactement, une presse étrangère dithyrambique. Le Paris Saint-Germain et le Bayern nous ont offert un monument du football qui devrait reposer au musée du Louvre comme l'un des meilleurs éliminatoires de l'histoire de la Ligue des Champions, écrit le quotidien espagnol Marca, qui rend donc hommage aux deux équipes. De l'autre côté des Alpes, on salue surtout la qualification du PSG sur Sky. Vitesse, choix juste, jeu en une touche, le football que joue le PSG ce soir se joue seulement au paradis. Paris Saint-Germain qui a aussi impressionné la Gazzetta dello Sport. Le PSG ne peut plus se cacher après cette qualification, c'est un candidat pour la victoire finale. Paris qui, grâce justement à cette qualification, s'installe à la table des grands d'Europe. Deuxième année d'affilée que le club est en demi-finale, ce n'est plus arrivé à une équipe française depuis 30 ans et surtout ça va peut-être permettre aussi d'accélérer les deux dossiers prioritaires du PSG, à savoir les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Neymar qui l'a redit à la télé brésilienne, il se sent très bien à Paris. Le club attend juste le bon timing pour officialiser son nouveau contrat. Quant à Mbappé, toujours en pleine réflexion, cette qualification pourrait clairement l'inciter à prolonger l'aventure avec le club de la capitale.
Ouais, c'est bien parti. Merci Julien Froment. Le temps, Anissa Aladi, beau temps cet après-midi.
Oui, du beau temps, Patrick, avec un soleil radieux, notamment au sud de la Loire. Le soleil brille dans un ciel bien dégagé. En Provence, sur les Alpes, la Côte d'Azur et jusqu'en Corse, nous avons une légère instabilité qui apporte des nuages et peut-être quelques gouttes cet après-midi près des montagnes. Au nord de la Loire, de la Bretagne jusqu'au Grand Est, en passant par la région parisienne, là le ciel est un petit peu plus nuageux avec quelques gouttes prévues près des frontières belges. En revanche, c'est côté thermomètre qu'on n'y est pas du tout, Patrick. On est encore en dessous des normales de saison avec des températures hivernales. 12 degrés à Paris et Caen, 9 à Dunkerque, 10 degrés à Lille, 14 à Lyon et Lorient. Il fait un petit peu meilleur dans le sud, mais c'est quand même léger avec 17 à Marseille et Bordeaux et 19 pour Carcassonne.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La laïcité dans le texte, le texte fondateur, la loi de 1905, dont notre invité ne se lasse pas de vanter les mérites. Il le refait dans un livre de la laïcité en France, l'historien Patrick Veil, avec nous dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Patrick Veil.
Bonjour.
Historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de citoyenneté et de laïcité et, j'ai envie de dire, admirateur de la loi du 9 décembre 1905 qui porte la séparation des églises et de l'État. C'est l'objet de ce petit livre qui paraît chez Grasset, de la laïcité en France face aux controverses actuelles et à la défiance des plus jeunes à l'égard de ce principe fondateur. Vous pensez qu'il faut revenir et se référer à la matrice originelle, cette loi de 1905. C'est l'assassinat de Samuel Paty qui vous a conduit à ce retour aux sources.
Oui, parce que après son assassinat, le ministère a voulu organiser un débat, avait annoncé un débat que les professeurs devaient animer avec les élèves à la rentrée scolaire. Et puis la veille de la rentrée, le débat a été annulé. Je me suis dit, il faut fournir aux professeurs et aux adultes, et à tous les Français, un outil, un livre clair qui leur explique comment ça marche la laïcité. C'est ce que j'ai voulu faire. Mais je suis un historien, je suis allé aux archives, j'ai trouvé des choses que personne n'avait, que tout le monde avait oubliées. Et je vais essayer de vous le raconter. On a découvert, après l'assassinat de Paty, que le recteur de la mosquée de Pantin avait posté sur le Facebook de la mosquée cette vidéo qui a probablement contribué à sa décapitation.
La vidéo d'un parent d'élève qui protestait contre
fait,
le cours de Samuel Paty.
Qu'a fait le ministre de l'Intérieur, Il a fermé la mosquée. Il n'a pas poursuivi le recteur.
Vous pensez qu'il y avait motif à poursuite pour avoir relayé cette vidéo ?
Alors, quand vous êtes... Il y a des Français qui se disent, mais pourquoi on s'attaque aux fidèles ? C'est une discrimination, ils n'ont rien fait, etc. Et d'autres qui disent, mais pourquoi on ne s'est pas attaqué à celui qui a perpétré l'acte ? Eh bien, s'ils avaient lu, s'ils avaient connu la loi de 1905 et ce qui s'est passé dans l'application de la loi dans les années qui suivent et ce que je raconte dans le livre, ils auraient trouvé qu'il y avait une solution. Parce que la loi de 1905, elle a failli se terminer tout de suite par un crash. Le pape a rejeté une loi inique et a appelé, il était prêt à la guerre civile contre la République. Et alors, le gouvernement s'est reconstitué avec Briand et Clémenceau. Ils ont décidé d'intégrer la masse des catholiques dans la légalité, que le pape voulait mettre dans l'illégalité, mais de s'attaquer à des cardinaux, des archevêques, des curés, qui appelaient à des violences contre les citoyens, et notamment contre les profs, contre les instituteurs, contre les programmes scolaires, qui menaçaient les enfants de leur privé de première communion s'ils allaient étudier certains livres à l'école, les parents de la confession et de tous les sacrements. Eh bien, Clémenceau et Briand se sont attaqués à cet épiscopat qui appelait à la violence, et ils ont été condamnés à des peines d'amende, voire de prison, au titre d'un article, l'article 35 de la loi de 1905, et notamment si on appelle à résister à l'exécution des lois ou à soulever une partie des citoyens contre les autres. Il y a un autre article, l'article 34, qui protège les instituteurs. Eh bien, interrogé au cours du récent débat au Sénat sur cet article 35, Monsieur le ministre de l'Intérieur a déclaré, je le cite, « Quant à l'article 35 de la loi 1905, il n'a jamais été utilisé par aucun gouvernement. »
Ce qui est vrai.
Ce qui est faux. Je viens de vous expliquer...
Ah oui, il a été utilisé il y a un siècle. Mais
vous vous rendez compte...
Mais pas récemment. Il est tombé en désuétude. Mais il existe toujours. Voilà.
Il n'est pas tombé en désuétude. Et c'est ce que je montre dans le livre. Et je pense que les Français vont découvrir des centaines de cas. Enfin, je les ai résumés. Mais d'applications qui parlent à la situation d'aujourd'hui. L'appel à la violence de la part des ecclésiastiques. Vous savez ce qu'a dit l'un des penseurs de la loi ? Il a dit « La formule « l'Église libre dans l'État libre » ne signifie rien. À moi, qu'on ne précise bien le sens des mots, l'Église religieusement libre dans l'État politiquement à l'abri de ses menaces. D'où la police des cultes. » Parce que ce qu'on appelle ces dispositions pénales, c'est ce qu'on appelle la police des cultes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que si le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux confirment après qu'il ne connaît pas cet article, ne savent pas ce qu'il était possible de faire. Et notamment qu'on pouvait poursuivre cet homme. Vous vous rendez compte que si on avait dit « on va faire comme Clémenceau et Briand, on va poursuivre cet homme et laisser les fidèles tranquilles », eh bien on réunissait les Français, ceux qui exigent qu'on s'attaque aux fauteurs de troubles, aux radicalisés, aux hommes ou aux femmes dangereuses qui s'attaquent aux lois de la République. C'est cela qu'il faut viser. Si Clémenceau et Briand ont fait réussir la loi de 1905 au travers de l'obstacle terrible qui était l'appel du pape à résister à cette loi, c'est qu'ils ont réussi à associer à la République la masse des croyants catholiques et à ne cibler que ceux qui violaient la loi ou appelaient à la violer.
Si je peux me permettre, Patrick Veil, la fermeture de la mosquée, ça voulait signifier aussi l'intention de mettre un terme à d'éventuels prêches radicaux ou extrémistes ou des propos qui n'entraient pas dans un cadre républicain, ce que le déclenchement de poursuites contre le recteur de la mosquée n'aurait pas permis.
Si, car c'est exactement ce que Briand a dit. Briand a dit, il faut des peines spéciales pour les ministres du culte, donc des prêches, parce qu'il a dit, et je le cite, il est impossible de traiter sur le pied de l'égalité quand il s'agit de l'exercice du droit de la parole, le prêtre dans sa chair et le simple citoyen sur une tribune. Et alors il dit, les circonstances du délit, l'autorité morale de celui qui le commet, Et le lieu sont des éléments dont il est impossible de tenir compte. On ne peut pas assimiler un discours de réunion publique où on peut être contredit avec un sermon, je le cite, c'est formidable, prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d'une parole qui tient sa force des siècles et n'a jamais été affaiblie par la controverse. Eh bien, l'Assemblée nationale, la réponse de M. Dupond-Moretti, je ne vous ai pas cité, quand on lui a parlé, mais l'Assemblée nationale l'a supprimée. Pour qu'il n'y ait pas de peine spéciale. Mais justement, Briand et Clémenceau avaient prévu, parce que quand vous parlez au nom d'une religion à des fidèles, vous avez une responsabilité morale plus forte. C'est dans le texte de la loi de 1905, et j'espère que ça va le rester.
Le récit historique est absolument passionnant, Patrick Veil, parce que vous montrez à la fois, vous rappelez l'extrême violence de la controverse de l'époque, d'il y a un siècle, l'Église catholique, vous l'avez rappelé, le pape, la menace de guerre civile. Vous montrez aussi que cette loi était un modèle d'élaboration parlementaire, porté par un homme pendant des années, Aristide Briand. Mais est-ce que vous admettez tout de même qu'il n'y a pas, un siècle plus tard, des choses sur ce monument à dépoussiérer ou à aménager avec l'irruption d'une religion qui n'était pas installée il y a un siècle et qui est dépourvue d'instances de représentation, de patrimoine immobilier, donc il y a un problème de financement, une religion qui peut développer des formes prosélytes et politiques en exerçant des pressions sur des groupes d'individus. Est-ce que la République n'est pas fondée à se défendre, à développer d'autres armes que celles de la loi de 1905 ?
Alors, vous avez cité, par exemple, des pressions. Il y a un article 31 qui dit que
vous
si on fait pression sur autrui, là aussi personne ne l'a jamais appliqué. Alors, vous avez le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Chez les juifs et les protestants, il n'y en a pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que la loi, le pape a considéré qu'elle n'était pas adaptée à l'Église catholique, mais elle était très adaptée à des religions qui n'ont pas d'autorité. Donc, si vous voulez, je trouve que la priorité eût été, et là je suis tout à fait d'accord, il faut aménager ces peines. Il faut intégrer la modernité. Le site Facebook, évidemment, il ne l'avait pas prévu en 1905. Bon. Donc il faut évidemment que ces articles-là soient aménagés pour, par exemple, prévoir de pouvoir inculper ou mettre en examen des gens qui postent des choses sur les médias sociaux. Mais vous voyez, la logique de la loi, elle était extraordinaire parce qu'elle s'attaquait à des individus et pas à la masse des fidèles. Et c'est comme ça qu'elle a gagné. Et je dirais qu'il faut la garder en tête, il faut avoir un principe. Il faut qu'une règle ait un sens pour qu'elle soit, elle devienne adoptée et aimée même par les citoyens, parce que ce sont des citoyens catholiques qui allaient dénoncer le curé. Vous comprenez ? Comment ça se faisait que le curé était mis en examen ? C'est que les enfants parlaient, c'est que les fidèles allaient voir le procureur ou le maire en disant « j'ai été menacé, il faut saisir la justice ». Eh bien, il faut créer cette atmosphère avec nos compatriotes musulmans, qu'ils aient confiance dans une loi qui soit juste et qui soit ferme en même temps.
Comment justifier, Patrick Veil, la survivance plus ancienne encore du Concordat qui maintient un statut dérogatoire à l'Alsace et à la Moselle ?
Alors écoutez, en 1924, quand la gauche est revenue au pouvoir avec M. Herriot, ils ont essayé de supprimer le Concordat.
Oui.
Ça n'a pas marché.
Qui date de Napoléon, hein, 1802.
Alors, parce que comme la loi de 1905, quand elle passe, bah, l'Algérie est française, d'ailleurs la loi officiellement s'applique à l'Algérie, mais l'Alsace-Moselle est allemande. Bon. Donc, elle ne s'applique pas, et après, ça ne marche pas. Bon. Alors, à la commission Stasi, on en a parlé.
En 2003, oui.
Sans révéler un secret...
Allez-y.
C'était le vote le plus serré, savoir si on proposait.
Ah oui.
Oui, oui. Ça divise beaucoup. Moi, je serais partisan de... Maintenant, j'ai l'impression qu'il est temps peut-être de consulter les Alsaciens lorrains. Est-ce qu'ils ne veulent pas faire partie du régime général ? Voilà. Hein, ça suffit peut-être de ce régime spécial. Si, mais s'il y a un régime spécial, il faut, comme les autres religions qui n'étaient pas dans l'Hexagone avant 1905 n'en font pas partie, il faut prévoir des systèmes d'équilibre, et c'est là que par rapport à la mosquée de Strasbourg, bah, à mon avis, il faut que les autorités publiques se mettent d'accord qui y finance et qui y finance pas, et ensemble, préfecture, mairie, région, etc.
De la laïcité en France, chez Grasset, très utile retour aux sources et rappel à ce principe fondateur. Merci beaucoup Patrick Veil.
Merci beaucoup à vous
d'être venu sur Europe.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le 13h de Christophe Lamar avec d'autres informations, puis la France bouge. À demain, 12h30. Bonne journée.